Oui, c'est à partir d'aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, que nous allons devoir payer notre place en chemin de fer un peu plus cher du kilomètre. Cet événement nous fournira notre chronique de ce matin, non pas pour nous plaindre, pour en discuter le bien ou le mal fondé, ni pour proposer des solutions. Non, nous en resterons au domaine de l'histoire et à quelques petits faits peu connus.
La fumée du train s'évapore dans le matin rose. La gare ronfle dans le halètement des machines. Là-bas, la courbe du rail scintille dans le rayonnement du soleil. Les casquettes sillonnent le quai. Larmes ou sourires s'estompent dans le point noir qui disparaît à l'horizon.
Développé par le moteur. Merci. Et puis alors, je vois aussi qu'il y a un autre dispositif dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Nous sommes passés il y a un instant devant un signal. Et j'ai vu que automatiquement, presque, la main du conducteur est venue presser sur ce bouton. Je crois qu'il s'agit de l'appareil de sécurité, le flamand.
Oui, c'est le flamand, c'est l'enregistreur des signaux.
C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un signal qui passe,
c'est pointé. Et si ce signal est à l'arrêt, le flamand donne un son aigu, un sifflet.
C'est ce qui vient de se passer à l'instant.
C'est ce qui vient de se passer à l'instant.
Alors on va s'arrêter ou quoi?
Non. C'est un ralentissement de travaux à 30 km à l'heure.
Ah bon, alors maintenant, vous allez entendre les moteurs qui vont diminuer de rapidité. Le régime va baisser considérablement. En effet, nous voyons devant notre voie non seulement un signal vert qui s'avance dans le noir de la nuit. C'est vraiment très joli, parce que il s'agit toujours du système optique de Fresnel qui donne des rayons lumineux parallèles. Et nous voyons en dessous une lampe mauve, une lampe violette, qui indique que dans quelques instants, nous allons passer sur un endroit où il y a des travaux. Et le long de la voie, nous voyons défiler des signaux.
On pense généralement que notre premier chemin de fer fut le fameux Paris-Saint-Germain, long de 18 km, inauguré en grande pompe par la reine et le duc d'Orléans, et qui avait fort frappé l'imagination de nos ancêtres. La forêt de Saint-Germain reliée à la capitale. Pensez donc. Nous étions en 1837.
Sous le hall gigantesque aux lumineux vitrails de la gare où converge un infini de rails, dans les chocs de butoirs et de plaques tournantes, les grands rapides noirs, à la marche tonnante, pénètrent, modérant leur élan haletant, essoufflés de leur course à travers les provinces, entre les quais, au bruit des freins bloqués qui grincent sous des jets de vapeur et des sifflets stridents. Hâte fébrile de départ au cœur des gares, incessant va-et-vient, où le regard s'égare, danse multicolore et folle des signaux qu'on manœuvre sans trêve au poste d'aiguillage.
Mais il y avait déjà 10 ans que fonctionnait un tronçon de ligne régulier d'Andrézieux à Pont-de-l'Arne, sur la Loire, exploité par la première compagnie de chemin de fer, la compagnie de Saint-Étienne à la Loire. 4 relais, 160 wagons et 40 à 44 chevaux. Le premier voyageur en 1831 avec les premières locomotives est toujours dans ce bassin de Saint-Étienne qui fut le berceau du réseau ferré français.
Nous sommes au kilomètre 100, n'est-ce pas? Nous sommes à 100 km de Paris.
Non,
qu'est-ce que c'est que ce signal?
C'est une indication de vitesse.
C'est une indication de vitesse, ça veut dire que...
Voilà, le 30 exécution.
Voilà le... C'est-à-dire?
Le 30 exécution, nous pouvons marcher à 30 km à l'heure.
À partir de ce photo-là.
Ah, c'est ça.
Eh bien, vous entendez en effet que nous ne sommes pas en ce moment dans un studio, mais que nous sommes bien dans la machine. Je vais en sortir, nous sommes dans la cabine, nous allons en sortir, parce que ce travail est assez pénible pour les cordes vocales. Et vous avez entendu que le régime des moteurs a baissé considérablement. Nous sommes passés en effet extrêmement rapidement tout de même, il faut bien y penser, étant donné que la masse de ce train est considérable.
Cris des hommes d'équipe à l'entour des bagages, adieu, geste d'accueil, échoc de lourds fardeaux, disparate cohue au remous tapageur, fiévreuse activité des grands débarcadères, au battement sonore et brutal des portières, dans un énervement croissant de voyageurs pressés qui vont partir, débarquent ou reviennent, lestés d'espoir ou lourds de chagrin et de peine.
Nous sommes passés de la vitesse de 100 km à 30 km à l'heure. Mais nous allons demander d'ailleurs quelle est la masse de ce train, à peu près, le poids du train à peu près. Évidemment, je pose cette question-là à des personnes.
151 tonnes.
151 tonnes, merci. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 minutes, nous sommes passés de la vitesse de 105, 110 km à l'heure à la vitesse de 30 km à l'heure.
Sous le hall gigantesque aux lumineux vitrails, où bondissent, bardés de fer, la voie tonnante, dans des chocs de butoirs et de plaques tournantes, les rapides surgissent d'un horizon de rails.
Parfois, Les petits trains qui serpentent le long des collines vertes emportent avec eux la gaieté et la poésie. Ils traversent de minuscules villages blottis au creux des vallons et l'on se raconte dans les wagons de si charmantes histoires.
Exactement, Jean-Gabriel Grand, c'est à 160 km à l'heure, pendant 20 km après la gare de Mer, que nous avons pu apprécier les qualités de la nouvelle locomotive électrique CC7001. En effet, la SNCF vient de mettre en service, sur ses lignes électrifiées, un nouveau prototype de locomotive conçu spécialement pour la remorque des trains rapides et qui représente, par rapport aux locomotives existantes, un progrès technique considérable.
Grande toilette ce soir, gare du Nord, le long de la voie 19, où tout à l'heure, le train La Flèche d'Or va faire son entrée après son premier parcours Londres-Paris. Une gare, vous le savez, eh bien une gare d'habitude, c'est toujours un petit peu gris, un petit peu triste, mais ce soir, non. Je vous assure que ça n'est vraiment pas du tout le cas.
Oh, c'est une histoire très banale. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la gare de Melun. Des ouvriers algériens travaillent sur un chantier de chemin de fer. Un train de voyageurs arrive sans qu'on l'ait vu de loin. Un cric est resté sur la voie. Le chef de chantier, Aïssa Ichou, se précipite pour essayer d'ôter le cric de manière à éviter le déraillement. Le train ne déraille pas, mais il accroche Aïssa Ichou et il le décapite.
Les balayeuses lissent le sol. Des drapeaux anglais et français s'égrènent là tout le long du quai. Il y a des fleurs, il y a un beau butoir là-bas au bout des rails tout neuf, un beau butoir blanc et rouge, et il y a aussi des lauriers, c'est printanier, c'est charmant. J'oserais presque dire qu'on a briqué les rails. En tout cas, des ouvriers là tout près de moi passent au noir, au cirage peut-être, les grilles qui délimitent sur la droite la consigne au bagage.
C'est surtout en train que j'ai roulé, et le moindre voyage en train là-bas prend environ... au minimum, un jour et deux nuits.
Oui, c'est que les distances sont grandes.
Et précisément, c'est une différence que peut-être vous n'avez pas encore notée et qui rend, hélas, le rallye beaucoup moins héroïque, c'est qu'à partir de Bukama, au Congo belge, c'est-à-dire avant même d'arriver à Elisabethville, on va jusqu'au Cap, soit sur près de 4000 km, toujours suivre une voie ferrée.
Et voici qu'apparaît à la courbe des rails le Golden Arrow, le Flèche d'Or. L'exactitude est, dit-on, la politesse des rois, c'est aussi la politesse du Flèche d'Or. Et il n'aurait pas voulu manquer, certainement, ce premier rendez-vous, ni même être un tant soit peu en retard. Il est à l'heure très exacte, il est 18h45.
C'est à 20h09 ce soir que retentit cette annonce dans le hall d'arrivée de la gare d'Austerlitz. En effet, le premier train en provenance du Maroc va faire son apparition dans quelques instants. C'est un train qui doit assurer une liaison pendant l'été, une relation hebdomadaire plus exactement, entre le Maroc et la France, et vice-versa via l'Espagne.
Ici la gare Saint-Lazare où arrive en ce moment même le train de l'amitié. J'aperçois l'avant de la machine décorée de drapeaux américains et français, et sur les quais, décorée de façon semblable, une foule nombreuse se presse, éclairée par les projecteurs de cinéma qui jettent une lumière crue. Il fait froid et humide, un léger brouillard règne encore, mais le peuple de Paris a tenu à manifester sa reconnaissance. Autour de nous, les officiels, son Excellence Monsieur Jefferson Caffrey, ambassadeur des USA, Monsieur Drew Pearson, l'instigateur du train de l'amitié, Messieurs Jules Mock et Christian Pinault, représentant le gouvernement français, un représentant du conseil municipal et les directeurs de la SNCF.
Un train qui est extrêmement rapide et qui va apporter bien des aménagements, bien des facilités aux voyageurs qui pourront venir passer quelques temps en vacances en France, dans leur famille. Il est parti lundi en fin de soirée de Casablanca et de Rabat, exactement à 23h20. Les voyageurs ont effectué mardi la traversée du détroit de Gibraltar entre Tanger et Algésiras, puis au cours de la nuit de mardi, de la journée de mercredi et de la nuit suivante, ils ont effectué la longue traversée de la péninsule ibérique en passant par Madrid. Arrivés ce matin à Hendaye à 7h05, les voyageurs ont poursuivi leur voyage en empruntant, suivant leur destination, soit le Maroc Express qui arrive maintenant et que vous allez pouvoir entendre d'ailleurs, soit les services ordinaires.
La machine est arrivée maintenant près de nous et sur les wagons, je peux lire les affiches représentant elle-même un wagon, je peux voir les affiches représentant elle-même un wagon, entourées de drapeaux américains et français, où l'on peut lire « À nos amis français, du fond du cœur, vive la France ». Ravitaillement offert spontanément au peuple français par le peuple américain en symbole de son affection.
En sens inverse, l'horaire ne sera le suivant. Départ de Paris à 9h40 et arrivée à Hendaye à 20h05. À Hendaye, où les voyageurs pourront prendre également un train qui les emmènera directement au Maroc. Voici le train qui fait son apparition. Il est décoré sur... C'est une Michelin électrique, c'est une voiture électrique. Il est décoré sur le devant de drapeaux bleu, blanc, rouge, portant un croissant marocain avec... une cocarde bleu, blanc, rouge également, sur laquelle on peut lire Maroc Express.
À la suite de l'accord intervenu la nuit dernière entre le gouvernement et la direction de la SNCF d'une part et les fédérations syndicales des cheminots d'autre part, la reprise du travail devait s'effectuer à partir de ce matin 9h dans toutes les gares, tous les dépôts et sur toutes les lignes des réseaux de la SNCF.
Rien n'est plus odieux que l'instant des adieux sur un quai dans une gare. Non, rien n'est plus barbare qu'un départ. C'est un vrai martyr et lorsqu'on doit partir, on a l'impression de mourir un peu.
Eh bien, le trafic voyageur a repris dans la banlieue parisienne vers 9h d'une façon générale. Et elle était à peu près totale à midi, aussi bien dans la région parisienne qu'en province.
Mais quand on doit quitter Paris, c'est fou.
On sent qu'on va mourir beaucoup.
Elle s'est mise en contact avec tous les organisateurs de trains spéciaux, pèlerinages, colonies de vacances, etc., qui auraient dû partir pendant la grève et n'ont pu avoir lieu, de manière à déterminer avec eux les dates auxquelles ces trains pourront être remis en marche.
Dans le train de Saint-Germain, tout roulant, quand reviennent les matins éclatants de printemps, tous les cœurs se balancent. Font bientôt connaissance, sans penser au lendemain, dans le train de Saint-Germain.
Le dispatching assure le contrôle de la circulation des trains sur l'arrondissement de Saint-Lazare. Sur les lignes de Paris-Saint-Lazare à Cherbourg jusqu'à Cerquigny et de Paris-Saint-Lazare à Rouen jusqu'à Mantes. Il contrôle également la circulation des trains de la banlieue électrifiée. Jusqu'à Saint-Nom-la-Bretèche et jusqu'à Saint-Germain et Versailles.
Et voici maintenant la traduction d'une des phrases de M. Drew-Pearson.
Je puis vous dire que dans ce train se trouve un colis d'une valeur de 170 francs qui fut donné par 5 écolières de West Oakland, communauté très pauvre de la Californie. Et quand ces jeunes filles ont ainsi utilisé l'argent qui va normalement à leur déjeuner, elles n'ont pas pensé à la politique européenne, mais uniquement aux jeunes filles moins fortunées qu'elles, qui avaient peut-être faim.
Depuis 13 heures, les trains circulent à l'heure, au départ de Paris. Nous pourrons certainement retomber sur nos pieds dans le sens pair en venant de la province que demain matin, parce que la grève a bloqué toutes les rames à Paris.
C'est à 17h30 cet après-midi que Duke Ellington fait son apparition en même temps que la Flèche d'Or à la gare du Nord. Mais vous devez vous étonner de ne pas entendre une présentation normale des arrivées de vedettes, car effectivement nous sommes dans la cour et non pas sur le quai, et vous n'entendez par conséquent pas le bruit de la machine. Nous sommes dans la cour et un jazz français, l'un des jeunes espoirs du jazz français, Claude Bolling, est venu là pour offrir un petit concert à Duke Ellington à son arrivée à Paris.
Ici, la gare du Bois de Boulogne, la gare impériale et royale, pourrait-on dire, où les souverains étrangers prennent officiellement pied sur le sol français. En effet, après la reine des Pays-Bas, arrivée d'ailleurs en avion, après Sa Majesté le Sultan du Maroc, descendu ici même, le gouvernement de la République reçoit aujourd'hui, et en quelques mois, son troisième souverain étranger. Je devrais d'ailleurs dire ses quatrième et cinquième souverains, puisque la reine Juliana était accompagnée du prince Bernard et que cet après-midi, le roi Frédéric IX du Danemark arrivera dans quelques instants avec la gracieuse reine Ingrid, petite-fille de Gustave. Et présentement, nous sommes avec notre micro, cette fois-ci, non plus le long des grilles extérieures du boulevard Lannes, où nous attendions la dernière fois Sa Majesté le Sultan du Maroc, mais sur le quai même de la gare, sur l'unique quai d'ailleurs, tendu de blanc,
plantée de lauriers et de fleurs, et à quelques pas de l'escalier de velours qui conduira tout à l'heure le roi, la reine, le président Vincent Auriol et Madame Auriol, d'abord au salon d'attente, puis de là, sur la place de la gare.
Sont informés que le train 7046 en provenance de Béziers est annoncé avec un retard de 20 minutes environ.
Et comme nous attendons toujours l'exactitude et la politesse des rois, le train doit arriver à 30 et il est exactement 26. Et comme nous attendons toujours, nous allons vous signaler d'abord que M. Vincent Auriol vient de passer avec quelques personnalités pour se rendre exactement à 100 mètres d'ici, vers le milieu du quai, à l'endroit précis où s'arrêtera le train amenant le couple royal.
Le train 7048 entre en gare au quai numéro 2. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.
Voici qu'apparaît le train royal à la gare du Bois de Boulogne. Pendant que passe la machine, magnifiquement décorée et très lustrée, rappelons, voulez-vous, la devise royale, avec Dieu pour le Danemark.
Je crois que la gare de l'Est n'a jamais été aussi mouvementée, aussi bruyante que ce soir. Dans quelques instants, le premier train spécial en direction de Prague, chargé de conduire les jeunes Français au Festival mondial de la jeunesse, va quitter Paris.
8h15, nous venons d'arriver à la gare Saint-Lazare. Les gens descendent nombreux des trains de banlieue afin de gagner leur travail à 7h matinale. Le jour vient d'ailleurs à peine de se lever, puis je vous assure, il ne fait pas très chaud. Je suis transformé en machine à vapeur quand je vous parle. Enfin, si les trains de banlieue fonctionnent à plein en ce moment, c'est aussi l'heure des grands départs. Juste sous la pancarte Grande Ligne, un contrôleur reçoit en ce moment les voyageurs pour l'Amérique, les premiers voyageurs civils.
Le Festival mondial de la jeunesse démocratique à Prague a été prévu depuis de longs mois. Il a nécessité des prises de contact entre les représentants des différentes fédérations mondiales et il aboutit aujourd'hui, comme vous le voyez, au départ du premier train spécial de 900 personnes qui précède 8 autres trains dont le second partira demain qui s'échelonneront pour les derniers jusqu'au premier et jusqu'au 8 août.
Nous nous réjouissons tous de voir la reprise des relations. Et nous sommes très heureux des facilités que nous a données aujourd'hui le financier de l'État. Le contraste est grand entre ce train de voyageurs et le train allemand qui est à côté, qui a été pris. C'est évidemment le retour de l'activité de paix. Et nous nous en réjouissons tous en espérant que bientôt nous aurons encore des trains plus nombreux, plus de paquebots, et que les relations de la France et de l'Amérique sont de plus en plus.
Eh bien, les trains de Paris-Prague mettent généralement 24 heures ou 26 heures, ce sont des trains spéciaux. Pour autant qu'ils ne soient pas trop retardés aux frontières pour les vérifications de papiers nécessaires, comme vous le savez.
Nous vous avons déjà parlé plusieurs fois de ce train exposition de la jeunesse qui a vu le jour aux ateliers de la SNCF de Levallois, pour le côté matériel, et dans le cerveau de M. Badevant, pour le côté décoratif et spirituel, si je peux m'exprimer ainsi. Peu de temps avant la grève des chemins de fer, il fut inauguré en grande pompe à la gare Saint-Lazare, où il est encore présentement.
Number 12 train took my baby. I could not keep from crying. Number 12 took my baby. I could not keep from crying. Sometimes I'm not myself. Sometimes I feel I'm dying.
Le train exposition de la jeunesse représente beaucoup de choses. Il représente des mouvements de jeunesse qui viennent de tous les horizons politiques et de tous les horizons sociaux. Il est en quelque sorte la représentation complète, au-dessus de toutes les considérations d'ordre politique de la jeunesse française.
J'avais 14 ans. Je sortais du couvent, j'ai voyagé en train pendant 5 jours et 5 nuits sans manger, de Paris à Bordeaux. Je n'avais jamais vu l'Angleterre et j'ai eu bien peur de ne jamais la voir.
Ce train, eh bien, il emporte un double message. dans les pays étrangers où il va passer, il dira, par ses statistiques, par ses graphiques, par ses gravures, par ses décors, ce qu'ont été les épreuves de la France pendant les années cruelles. Et il dira aussi ce que sont les espoirs et les volontés de la jeunesse française.
Dans le train, il y avait un jeune anglais qui était très aimable avec moi. Du moins, je le croyais anglais. Il parlait anglais beaucoup mieux que moi. Et à Bordeaux, sur le quai de la gare, la police l'a arrêté sous mes yeux.
La ligne de Paris à Mulhouse franchit la vallée de la Manne entre les gares de Nogent-le-Perreux et Villiers-sur-Marne sur un des plus grands ouvrages du réseau ferroviaire français, le viaduc de Nogent, long de 830 mètres. Ce viaduc a été détruit le 24 août 1944 par les Allemands en retraite. Ils y ont fait une brèche de 218 mètres de long. Cette brèche vient d'être réparée. Les travaux qui ont commencé le 25 août 1945 ont été achevés ce matin même. Et M. Gilles Mott, ministre des Travaux publics, vient de descendre du train qu'il a pris à 14 ans et qui vient de l'amener au début de ce travail d'art. Le ministre se prête de très bonne grâce aux exigences des photographes. On lui tend les ciseaux et il va couper le ruban tricolore qui coupe le tronçon de pont rétabli.
Pour à Lyon, Marseille, en voiture, troisième quai, attention, attention au départ.
Et les personnalités officielles ont regagné le wagon, un wagon spécial, un wagon panoramique qui leur permet de découvrir tous les travaux de ce pont. Et ils ont devant eux la ligne droite qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. On vient de part et le train va passer maintenant. Monsieur Jules Mock dit au photographe de faire attention et de circuler. Le ministre est penché à la portière et le train vient à la minute précise de s'engager sur le tronçon nouvellement reconstruit.
Cette nature toute de feu et de glace ne pouvait admettre le tiède. Bête de race elle était, bête de race elle voulait Paul, et cette petite fille qui roule en express pour la première fois, au lieu d'écouter le tam-tam des machines, dévore le visage de son frère sous les cris de folle, la chevelure de folle, l'émouvante chevelure de cri flottant par instants sur le sommeil des voyageurs.
Cette petite fille qui roule en express pour la première fois, qui se parle, et dévore le visage de son frère sous la lumière de la veilleuse, sous les cris de folle, la chevelure de folle, les mouvantes chevelures de cris flottant sur le sommeil des voyageurs.
Naturellement, il dort. Il ne s'étonne de rien, ne s'inquiète de rien, du moment que c'est agréable. Cela lui suffit. Un wagon-lit, c'est agréable. Une musique, c'est agréable. Une orangeade aussi, avec un menton pareil, rien n'étonne. Je lui changerai, moi, son menton, qui n'en est pas un. Je lui mettrai un élastique, une pince à linge. Je ne le laisserai pas être un tiède, une loche, un mou. Je lui apprendrai, moi, le feu, la glace, les catastrophes. L'amour de la mort.
Dans une maison qui est athée, à côté d'un passage à niveau. Je suis un petit peu émue, naturellement, de penser à tout y ressentir.
Vous avez donc été bercée par les trains.
Oui, j'ai été bercée par les trains. Alors, j'avais pas besoin de train électrique dans ce temps-là, je vous assure, toute la nuit et toujours, c'est... les renversements de vapeur, oh, c'était formidable.
Il s'arrête, important, et fait de la fumée, ainsi qu'un gros monsieur qui fume son cigare, à la petite halte où fleurit l'azalée, où le tournesol roule. Et quand la blanche gare d'un village l'accueille au milieu des herbages, il allait, trépide et stop, plein d'entrain. Fier de tout son vacarme, il traîne sur ses freins. On lui sourit avec un air de connaissance dans le silence clair du quai plein de soleil. La garde barrière et le facteur rural font la haie au milieu des sacs et des corbeilles.
À l'hôtel de ville de Paris, comme au Havre quelques jours auparavant, M. Pearson, le promoteur du train de l'amitié, a reçu un accueil chaleureux. À la mairie, ce furent des milliers d'enfants qui saluèrent M. Pearson en agitant de petits drapeaux américains et qui fut lui-même reçu par M. Pierre de Gaulle, le président du conseil municipal.
Train bleu, emporte-nous sur la colline lumineuse, vers le pays des tambourins, des œillets et du vin muscat. Autour de moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de cublanes, des orphéons de mésanges, des concertos de harpe dans les pins. Le matin, les courlis qui font, courlis, courlis, les pâtres qui jouent du fifre, les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes.
Eh bien, ce soir, c'est plus Paris que nous visitons, et Madras en particulier, je crois, madame Renaud.
Un petit train au fond d'une gare attendait l'heure du départ, fumant du charbon français, leur vin pas de sifflet. Puis leur passa les messieurs, les dames devenaient nerveux, toujours pas de sifflet du tout. Alors d'un seul coup, le petit train partit sur la voie sans permission. Il avait l'âme remplie de joie et d'émotion. Fallait-il arriver en somme, on verrait bien. Il partait seul comme un petit homme, comme un petit train. Tant qu'il garda le parcours normal, la chose parut charmante. Et personne ne put trouver mal son ardeur impatiente.
C'est d'abord Menton que la reine Victoria a choisi comme sa deuxième résidence. Comme le roi Edward VII a choisi Caen. Alors, malheureusement, à cette époque-là, il y avait les trams. Et une dame de compagnie de la reine Victoria a tombé amoureuse d'un conducteur de tram et elle a quitté la reine pour partir de Menton chaque jour, aller à Nice et revenir seulement le soir. Chose que la reine Victoria a trouvé tellement shocking qu'elle a quitté Menton et elle s'est installée à Simier.
C'est l'éditeur lui-même qui a eu cette idée-là quand je lui soumettais un manuscrit des mémoires d'une hôtesse de l'air. Et il avait pensé que ça serait plus spectaculaire de faire un livre relatant les souvenirs, les mémoires d'un contrôleur des wagons-lits.
Mais quant au dernier aiguillage tout près du but, il refusa de prendre le virage, tout le monde déçut. Mais tout le monde a bien vite changé d'avis car le petit train a filé, il est parti un jour et où ça? Le petit train a quitté la terre, il a filé vers le grand ciel, vers la lumière, vers la beauté. Pour les voyageurs fantastiques à mille à l'heure, il a trouvé la classe unique, celle du bonheur.
Et c'est vrai, puisque bien souvent lorsque le jour décline, des bergers qui marchent en rêvant au sommet des collines.